qu'il n'y avait plus de choses à dire là-dedans, ça ne servait plus à rien de le recommencer une troisième, quatrième ou cinquième fois. Il suffisait d'être les premiers. Si quelqu'un le refait sur un jour sur la bande FM en France, eh bien tout simplement ils ne créeront pas quelque chose, ils passeront quelque chose qui existait déjà, qui a déjà été fait ailleurs par Carbon 14. Alors sur ce point-là, au moins nous aurons été des précurseurs. En ce qui concerne Jean Édernalier, c'est un peu plus complexe. Jean Édernalier, nous nous sommes servis de lui. Jean Édernalier est venu chez nous, nous ne l'avons pas kidnappé, que les gens s'en rassurent, puisque nous sommes au déballage de vérité. Je tiens à dire que nous avions, et pour preuve de notre bonne foi, envoyé un téléx, et je défie le ministère de l'Intérieur de dire que ce n'est pas vrai. J'ai le double du téléx, de toute façon, ils ne le nieront pas. Nous avions envoyé au ministère de l'Intérieur à 22h05, la veille où est venu Jean Édernalier, car l'affaire a tourné au scandale, mais la police était tout à fait prévenue de ce qui allait se passer. Quoi qu'on en dise, je mets au défi, et là les gens nous écoutent et la presse nous écoute, je mets au défi le ministère de l'Intérieur de nier ce que je vais dire. Et nous avions donc passé à 22h05 un téléx, dans lequel nous disions « Jean Édernalier se trouve dans nos locaux ». Jean Édernalier va faire l'aveu qu'il n'a jamais été kidnappé. Jean Édernalier va faire l'aveu qu'il était chez nous ce soir-là. Et nous avons donc fait cette émission. Il s'est trouvé que le lendemain, effectivement, la brigade criminelle est venue chez nous. La brigade criminelle n'a jamais, jamais, jamais nié le fait que nous ayons envoyé ce téléx. Lorsque j'ai été convoqué par le juge Grolier, le lendemain, j'ai été surpris d'apprendre dans la presse, Dominique Fenu reconnaît avoir menti dans l'affaire Édernalier et se retracte. Je tiens à dire, et je mets en défi le juge Grolier, le procureur de la République ou le ministère de l'Intérieur, de me contredire dans ce que je vais dire. Je leur mets au défi de dire qu'une seule fois, nous avons reconnu avoir menti. Je tiens à dire que, conformément au téléx que nous avions envoyé la veille à 22h05, conformément aux déclarations qu'ont fait à la brigade criminelle, Régis Geoffrey et moi-même, ces déclarations faites le lendemain et celles qui ont été faites 8 jours plus tard au juge Grolier sont conformes. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, j'ai reconnu avoir menti quelque part. Je maintiens bien que dans toutes les déclarations que nous avons faites au ministère de l'Intérieur, à la brigade criminelle et au juge Grolier, ces déclarations sont dans les trois cas les mêmes. Elles ne sont modifiées d'aucune virgule, d'aucun point. En aucun cas, Carbone 14 ou moi-même ou Régis Geoffrey reconnaissent avoir menti quelque part. La presse, et je dirais surtout France Soir et l'AFP, avaient fait paraître un téléx dans lequel je reconnaissais avoir menti. C'est faux. Je m'élève contre ce faux. Je n'avais même pas répondu à l'époque parce que ça m'amusait. Je m'élève contre ce faux et je dis bien, je remaintiens bien mes déclarations faites au ministère de l'Intérieur par téléx. Les déclarations faites à la brigade criminelle et les déclarations faites au juge Grolier sont strictement les mêmes. En aucun cas, Carbone 14, ou c'est un de ses animateurs, reconnaît avoir menti dans l'affaire Jean Édernalier. Je mets donc au défi, qui que ce soit, de me porter la preuve inverse. Jean Édernalier, qui a pourtant l'habitude et la faconde de poursuivre en diffamation beaucoup de gens, c'est bien gardé de poursuivre Carbone 14 ou moi-même en diffamation ou en dénonciation calomnieuse concernant cette affaire. Je tiens à dire que la presse et l'AFP a déjà manipulé l'opinion publique dans cette affaire une fois. Après que nous les ayons déclarés, après que nous ayons eu dans nos locaux la déclaration de Jean Édernalier disant que son kidnapping était bidon, la FP avait sorti un téléx dans lequel il était précisé que le couple d'instituteurs qui croyait avoir reconnu Jean Édernalier s'était rétracté et disait qu'il s'était trompé de jour. Je dis également que là, la presse a commis un mensonge. Jamais ce couple d'instituteurs s'est rétracté. L'AFP a fait un mensonge et le savait bien. Le soir où Jean Édernalier était dans nos locaux, il s'est présenté un motard de l'AFP. Un gars donc qui est en moto de l'AFP, il est rentré et il nous a dit « Je veux absolument parler à Jean Éderne. » Je lui ai dit « Tu ne peux pas participer à l'émission. Jean Éderne est seul dans le studio. » Ce gars-là m'a répliqué « Si vous le gardez encore un peu, les gens vont, vous allez le manipuler et vous allez lui faire dire n'importe quoi. Il faut absolument que je lui parle 2 minutes avant que ce soit trop tard. » Nous avons refusé, Vous savez, ce journaliste-là, ce motard-là de l'AFP, c'est celui que Jean Édernalier avait appelé le jour de sa soi-disante libération, avant d'appeler la police. D'ailleurs, il avait préféré appeler l'AFP. Pourquoi pas? C'était son droit. Ce que je tiens à dire, c'est que le couple d'instituteurs n'est jamais revenu sur sa déclaration. Elle n'a jamais varié. Quoi qu'en ait dit l'AFP, les déclarations faites à la police et au juge Grelier concernant l'affaire Jean Edernalier n'ont jamais varié, quoi qu'on ait pu en dire, si l'on n'a pas osé toucher à Jean Edernalier. Eh bien, c'est tout simplement car, à part sous les régimes communistes et totalitaires, on ne met pas d'écrivains en prison. Sartre avait essayé, Jean Edernalier avait essayé et ça n'avait pas marché. Je tiens à dire que je rétablis une vérité première en ce qui concerne l'affaire Jean Edernalier. Carbone 14 n'a pas menti au juge, pas menti à la police et pas menti au ministère de l'Intérieur et n'a jamais varié dans les déclarations qu'elle a faites à ces gens-là. Qu'à la presse, nous ayons eu par moments des déclarations douteuses ou boiteuses ou qui nous a rangés, c'est possible. Mais je dis bien, je maintiens, lui persiste et signe une fois de plus, que au juge, ainsi qu'à la police et à la brigade criminelle, nous avons fait les mêmes déclarations et que l'article de l'AFP tendant à faire croire que nous nous étions rétractés ou reconnus avoir menti est un faux bidonné. Mais enfin, ils en ont l'habitude. Voilà Bruno en ce qui concerne ces deux affaires.
C'était les grands moments de Carbone 14.
C'était les grands moments de Carbone 14. C'était l'époque où Carbone 14 était une ruche qui ronronnait, où c'est qu'il s'y passait beaucoup de choses, où c'était vraiment dingue et il fallait voir ces gens se défoncer dans ce qu'ils faisaient.
Moi, je vois que tout à l'heure, tu parlais de la campagne que tu as faite pour Quilès entre les deux tours des municipales, mais je voudrais qu'on revienne dessus, parce qu'il y a quand même des contradictions et il y a pas mal d'auditeurs qui ont dû se poser la question, parce qu'ils t'ont entendu pendant de longues semaines, des mois, casser du bois mort sur la tête de Mitterrand, puis d'autres hommes politiques, puis tout d'un coup, tu fais la campagne pour Quilès. Alors, il y a quand même une contradiction.
Bien, il n'y a pas une contradiction. Oui, pour moi, il y en a une. D'ailleurs, je tiens à dire que lorsque nous avons pris fait et cause pour Paul Quilès, je me suis abstenu de venir parler à ce micro. Pour Paul Quilès, Paris valait bien une messe. Pour Carbone 14, Paul Quilès valait bien une dérogation.
C'est donc un échange politicien.
Un échange politicien. Simplement, la différence, c'est que moi, j'ai tout enregistré ce qui s'est dit entre le PS et moi, et qu'eux ne l'ont pas fait, et que je tiens à la disposition de tous les gens libres de ce pays pour écouter ces enregistrements et leur faire voir toutes les photos concernant cette campagne-là. Ils verront qu'en aucun cas, Carbone 14 ment. Nous avons une promesse, nous avons été dupés, et je tiens à le dire, je tiens à le crier très fort. Je tiens à dire, c'est un scandale ce qu'il se passe en France. La France est un pays de cons, c'est un pays de grands cons même. Depuis qu'il y a les socialistes, avec Giscard, je savais où était mon ennemi. Avec Mitterrand, c'est beaucoup plus dur.
C'est beaucoup plus subtil, oui. On va, si tu es d'accord, on va passer à la rubrique Libération. Parce oui. Que là, il y a aussi pas mal de choses à dire.
Eh bien, Libération, c'est un journal comme chacun sait. Libération, au départ, nous avons, fait une radio dans le style Libé, mais des années 70, pas des années 80. L'époque où Serge July n'était pas Monsieur Serge July, où il ne fallait pas lui faire une demande en quatre exemplaires pour le rencontrer. C'était l'époque où tout le monde prenait le même salaire à Libération. C'était une époque libre. Quand on sait que Libération maintenant est dans les mains de gros financiers, de groupes financiers, quand on sait que M. July maintenant a un salaire vraiment différent de 1 à 5 ou de 1 à 4 en ce qui concerne lui et le plus petit salaire de ce journal, quand on sait que M. Serge July a plutôt tendance à sucer des bonbons à la menthe dans les salons du 16e que d'aller voir ce qui se passe dans un ghetto, quand on sait ce qui est devenu Libération, qui des petites annonces gratuites de sandwichs a commencé à passer aux petites annonces payantes, quand on sait que Libération est allée à la soupe, eh bien Jean-Paul Sartre peut être triste de ce qui est devenu ce canard-là. Quand on sait que Libération, au départ, a commencé à rouler Carbone 14 dans la farine, a commencé à le démolir systématiquement, car nous étions un peu plus à gauche, pour reconnaître que Carbone 14 ne gêne pas la droite en rigole. Nous, tu sais, nous sommes un peu la mauvaise gauche, celle qui dérange,
oui, oui.
Celle qui ennuie, celle qui emmerde, celle qui empêche de tourner en rond. Et Carbone 14, c'est ça, et ça les emmerde. Alors Libération, encore aujourd'hui, dit Carbone 14 n'avait plus rien à dire et va crever dans l'indifférence générale. Oui, c'est vrai, nous allons crever peut-être dans l'indifférence générale, parce que dans ce pays, il n'y a pas d'homme libre. J'en connais que un ou deux qui ont été vraiment libres. C'est Philippe Lavergne, le traducteur de Financial Wise de James Joyce, ou Philippe Solers, qui sont venus à Carbone 14 dire que pour eux, c'était triste ce qui allait s'y passer. Ce sont à peu près des hommes libres. Quant aux autres, j'en ai vu peu. J'ai vu peu de gens capables de lever le petit doigt pour Carbone 14. Ils écoutent, mais ils s'en foutent. Mais qu'ils se disent bien que dans une heure à peu près, oui, il est 11h, dans une heure, Carbone 14 sera fini, et bien fini. Ce n'est pas un canular encore de carbone. Carbone 14 arrête réellement, tout au moins avec moi. Peut-être que dimanche, je sais qu'il y a une réunion de tous les animateurs. Peut-être que dimanche, les animateurs reformeront une nouvelle association dans laquelle je ne serai pas, car je ne tiens plus à en faire partie. Peut-être repartirez-vous avec un autre nom, une autre formule, ou peut-être avec Carbone 14, je ne sais pas, c'est votre problème. Mais en attendant, je tiens à dire que la presse telle que Libération, elle qui avant était le pourfendeur de portes ouvertes, les défenseurs de causes perdues, eh bien Libération, eh bien a oublié tout cela en cours de route. Depuis mai 81, Libération est devenue la voix de son maître. C'est un journal de Godillot. Je le regrette, monsieur Serge Julie, vous êtes plus un homme libre. Vous l'êtes plus depuis mai 81. Mais l'étiez-vous avant? C'est la question que je peux me poser.
Il faut dire qu'ils aiment beaucoup Radio 7, hein, qui est la radio de l'État.
Oui,
ils font beaucoup de pubs pour Radio 7. Mais enfin, ça n'explique pas la haine et le silence. Quand on passe une information, quand Carbone envoie une information à Libération, il ne l'a pas jamais. Hein. Tous les articles, tu sais bien qu'il y a eu des pigistes qui ont essayé de passer des articles sur Carbone à Libération, et c'était systématiquement refusé.
Oui, on leur a même dit à certains pigistes, ou vous vous taisez, ou on vous vire. Mais oui, mais c'est la liberté selon Serge Julie, c'est la liberté selon Saint-Gaby, c'est la liberté selon Libération.
Tu nous envoies un petit peu de musique, Gérard?
Je veux bien. On repart avec Renaud, je crois. C'est le seul que j'ai de calé pour l'instant.
Oui, ce qu'il faut dire, Gérard, c'est que, évidemment, quand, comme Carbone est en train de mourir, il va fermer. Tout le monde est en train de se laver les mains et de se serrer même les mains, de se frotter les mains. Ils sont tous là dans leur coin en disant tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je crois que tous ceux qui auraient pu faire quelque chose et qui maintenant rigolent beaucoup et qui n'ont pas du tout envie de faire quoi que ce soit. Il y a quelques auditeurs qui nous ont soutenus, mais je crois que la grosse différence, le grand vide, ils le verront dans quelques jours quand il n'y aura plus de Carbone 14 et qu'ils vont devoir se balader sur la bande FM. Et là, ils vont comprendre la différence.
Et oui, ils vont comprendre ce qu'elles sont devenues des radios voix de son maître, des radios Godillot, des radios fric, quand ils vont se rendre compte qu'effectivement la bande FM est orpheline. Mais tu sais, la presse en général, ça me fait penser à un truc, la presse en général s'était sentie orpheline chaque fois qu'un grand quotidien était mort. Je me rappelle qu'avant l'arrêt de Combat, son dernier numéro, ils étaient sortis, donc il y avait la première page, la une, et puis l'intérieur, il y avait 6 pages blanches. Et bien c'était tout simplement pour signaler, pour faire un appel, un cri, dans lequel on voulait dire voilà ce qu'il va rester de la presse française, plus rien du tout, des journaux aux mains de quelques-uns, et là ce sera pareil, ce sera un média aux mains de quelques-uns, du Parti Socialiste surtout, ou de quelques lobbies privés. Mais c'est tout et ça n'ira pas plus loin. On se lamentait il y a quelque temps sur la mort de Charlie Hebdo, il y a un an. Tout le monde était en train de trouver ça triste et regrettable devant le cadavre de Charlie Hebdo. Mais qui a levé le doigt pour défendre Charlie Hebdo? Personne. Eh bien là, c'est pareil. Nos appels téléphoniques au standard, qui sont très nombreux, je dirais même très importants depuis tout à l'heure, nous disent c'est dommage, c'est regrettable, mais oui, mais c'est pas maintenant qu'il fallait le dire. Il y a des gens qui nous téléphonent, nous disent je suis responsable de ceci ou je travaille dans tel ministère. Mais messieurs, c'est pas Carbone 14 qu'il faut appeler, c'est tout simplement les responsables à votre niveau. Simplement, vous pouvez faire peut-être par pression bouger le balancier, ça m'étonnerait, mais vous pouvez toujours le tenter. De toute façon, ça, si Carbone 14 doit renaître, ce sera de toute façon sans moi.
Enfin, de toute façon, oui, si quelqu'un peut faire quelque chose à son niveau, pour nous aider à partir, ça sera différent, puisqu'il ne sera plus là, ça sera autre chose, ça sera son petit frère jumeau ou son demi-frère, enfin on y sera quand même.
Un parent,
voilà. Bien, on va continuer, il est 11h12, 11h10, on va continuer jusqu'à midi tranquillement, on a encore, surtout toi, t'as encore pas mal de choses à dire.
Ben oui, on pourrait parler de tous les gens qui depuis de nombreux mois nous ont appelés, tous les gens qui nous ont soutenus, et déjà rendre hommage à tous les animateurs de Carbone 14, et par premier, celui à qui je rends d'abord un hommage préférentiel, c'est Jean-Yves Lambert, dit Jean-Yves Lafesse. Ça a été le personnage le plus important que j'ai croisé depuis de nombreuses années. C'est un garçon qui était bourré de talent, c'est un garçon qui avait beaucoup de choses à dire, qui s'exprimait, je pense, avec son cœur. C'était un garçon avec qui je me suis séparé, bien entendu, il y a quelques mois, d'une façon où tous les gens, tous les éditeurs ont été témoins, puisque j'avais préféré laver le linge sale en famille, c'est-à-dire devant la famille Carbone 14, devant nos auditeurs. Mais je tiens à dire qu'aujourd'hui, eh bien, celui que, qui manquera le plus, c'est Jean-Yves Lafesse. C'était un grand monsieur de la radio. Il est dommage qu'il n'ait pas réussi ailleurs. Il est dommage que lui aussi soit marqué par Carbone 14. Et peut-être ça lui nuira plus que ce que ça pourra lui amener. C'est regrettable, mais c'était un grand monsieur.
C'était quand même, ses émissions étaient absolument extraordinaires. Et de toute façon, bon, même s'il n'arrive pas, si ça l'a détruit d'être Carbone, il restera et gardera des souvenirs fantastiques.
Je pense que Jean-Yves gardera des souvenirs fantastiques de Carbone. Nous, personnellement, moi et les auditeurs, en garderons très grand de lui.
Très, très grand. Puis il y a tous les autres animateurs qu'il faut...
Alors, une place à part pour Super Nana. Super Nana, la passionnera de Carbone 14. Super Nana, la folle complète. Super Nana, la provocatrice. Super Nana, la dingue. Super Nana qui a un cœur gros comme elle. Et c'est très important. Super Nana qui s'est battue avec tous ses moyens. Super Nana qui... a essayé de faire quelque chose, Super Nana qui avait ses idées arrêtées, Super Nana la provocatrice, Super Nana l'agressive, et puis Super Nana le grand cœur aussi, c'était une grande bonne femme aussi. C'est une grande bonne femme, je lui souhaite aussi beaucoup de chance, où qu'elle est, de toute façon, c'est une femme qui a beaucoup de talent et qui doit réussir.
Et puis tous les autres animateurs, qu'ils aient réussi eux à des degrés divers, il y en a, ils ont fait tous des efforts, je crois, pour essayer de faire de bonnes émissions. Pour certains, ça s'est pas très bien passé, pour
bien
d'autres,
sûr,
ça allait un peu mieux. Et puis il faut dire une chose, c'est que Carbone 14 est une radio dans laquelle il n'y a jamais eu de pression pour une émission quelle qu'elle soit, et qu'on a toujours pu traiter tous les sujets et dire tout ce que l'on voulait, ce qui provoquait ensuite peut-être des règlements de compte au sein de la radio entre animateurs, mais ça c'est le problème des animateurs. Mais on a toujours pu faire et dire ce que l'on voulait, et ce qu'on a toujours voulu sur cette radio. Ça, je crois que c'est très très important, parce que je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup en France où on se soit permis de jouer avec la liberté comme on l'a fait.
Oui, et je tiens à le redire une fois, tu as raison de me le rappeler, je tiens à dire qu'à Carbone 14, il n'y a jamais eu d'émission censurée. Je veux dire par là que, quoi qu'ait pu vouloir dire quelqu'un à l'antenne, je ne l'ai jamais empêché, même si ça ne me plaisait pas.
À l'heure de Carbone 14, la mauvaise gauche. Qu'est-ce que c'est que la mauvaise gauche ?
Bien, c'est la gauche, celle qui se rappelle qu'elle a été dans l'opposition, celle qui se rappelle qu'elle n'a pas été élue pour régner, mais simplement pour développer des idées qu'elle développait avant d'être au pouvoir. La mauvaise gauche est celle qui rappelle aux hommes politiques de gauche qu'ils ont des promesses à tenir, qu'ils ont promis des choses, qu'ils ont promis autrement, qu'ils étaient autrement, et qu'ils ne l'ont pas maintenu. La mauvaise gauche est celle qui est toujours en train de remettre en question les acquis ou les promesses, pour de façon à ce que la société avance, et surtout la gauche avance. Il est incroyable que nous ayons un président de la République qui soit élu avec 51% de voix de gauche, qui fasse un programme de droite. On nous parle de restrictions, je suis surpris, c'était le langage que tenait Raymond Barre, c'est le langage que tient aujourd'hui M. Delors, Mauroy et Mitterrand. C'est surprenant, mais les cocus de la gauche ne doivent pas l'accepter. Tous les gens épris de liberté, tous les gens qui sont à gauche, doivent se battre pour que nos hommes politiques qui sont au pouvoir se maintiennent à ce qu'ils ont dit, promis, et non pas à ce qu'ils ont envie de faire. Giscard, nous lui reprochons d'être un président presque de droit divin, de défendre uniquement qu'un certain monopole. Il serait surprenant que Mitterrand fasse la même chose. Mitterrand, nous ne l'avons pas élu président de la République parce qu'il s'appelait François Mitterrand. Peu importe, il aurait pu s'appeler Dupont. Nous avons élu un homme pour qu'il fasse une politique. Nous n'avons pas élu un homme pour qu'il fasse sa politique à lui. François Mitterrand, bien, j'ai souvent dit ce que je pensais de lui. Eh bien, en un petit raccourci, je peux encore le redire aujourd'hui. François Mitterrand, c'est en 1936, l'époque où il est un admirateur de Maurras. Je n'y peux rien. Et à cette époque-là, il rejoint les Camos du Roi, dans lequel il fustige le Youpin qui était Léon Blum. Ce n'est pas de ma faute si en 1981, François Mitterrand se réclame comme étant le fils spirituel de Léon Blum. Ce n'est pas non plus de ma faute si en 1942, il est décoré de la Francisque. Alors qu'il soit été résistant ou pas, peu importe, il n'empêche qu'il l'a été. Ce n'est pas de ma faute non plus si en 1956 et jusqu'en juin 57, il a été le garde des Sceaux qui a fait procéder le plus à des exécutions capitales. Ce n'est pas de ma faute si lorsqu'il parlait du mouvement FLN, de l'indépendance de l'Algérie, il s'écriait « il faut se débarrasser des brigands et des tueurs » et qu'il faisait procéder à Constantine à l'exécution d'une vingtaine de membres du FLN. Ce n'est pas de ma faute si François Mitterrand, depuis 1831, a été le garde des Sceaux qui a fait procéder le plus à des exécutions capitales. Et s'il a fait fabriquer une seconde guillotine aux arsenaux de Toulon, parce que la première n'avait pas le temps, la cadence voulue pour couper le plus de têtes. Ce n'est pas de ma faute si en 81 il a supprimé la peine de mort. Je dis simplement que le raccourci historique là aussi est supprimant. Et surprenant, ce n'est pas de ma faute non plus si en 1958, dans l'attentat bilan de l'Observatoire, qu'il avait magouillé avec un autre député de son parti de l'époque, cet attentat bidon qui l'avait ridiculisé, mais enfin, il est vrai que, comme disait Georges Pompidou, il n'y a que la mort qui peut tuer un homme politique et pas le ridicule. Et oui, c'est vrai, François Mitterrand, il n'y a que la mort qui pourra te tuer, le ridicule ne t'a pas eu, et ça m'étonnerait qu'il taille pour plus tard. Donc, conclusion, François Mitterrand, dans cet attentat bidon de l'Observatoire, avait trouvé qu'un seul défenseur, c'était Robert Hersant, homme politique de droite, comme chacun sait. Alors, que dire de François Mitterrand, celui de Charletti en 68 avec Pierre Mendès France, celui de 81, celui de 83, à l'heure actuelle, celui qui essaie de faire gérer la crise à la France sur le dos des travailleurs, celui de 36, celui de 42. Finalement, il y a eu 10 François Mitterrand, ça n'a jamais été le même homme, il a été à tous les partis. Les Français peuvent juger.
Je voudrais te poser une autre question, Gérard, mais tu crois pas que ça va te manquer de t'éloigner du micro ?
Non, ça va pas me manquer, bien au contraire, je crois que ça me fait des vacances.
Tu y reviendras de temps en temps, j'en suis sûr.
Je crois pas.
Tu connais la situation ?
Non. Je suis persuadé de ne pas revenir.
Alors, c'est pour la télévision ?
Peut-être, mais peut-être dans une télévision libre, peut-être. J'essaierai. En tout cas, si le verrou de sûreté sautait, il est certain que je ferai de la télévision libre.
Tu nous envoies un disque ?
Ok.
Voilà, c'est toujours Carbone 14 pour la dernière émission jusqu'à midi. Il nous reste 25 minutes maintenant. On va revenir sur les hommes politiques, sur leur moralité, sur leur façon d'être. Et je pensais à ce que tu disais tout à l'heure au sujet de Filiou quand il était dans l'opposition à la Chambre des députés et qu'il s'adressait au banc des députés de droite, puisque vous le savez, à la Chambre, ils sont chacun par section. Hein, ils sont mis ensemble, c'est normal. Et qu'il disait dans Radio Libre, c'est Libre qui vous gêne. Moi, je me demande comment on peut être, après avoir dit ça, comment on peut être ministre de la Communication et oser faire ce qu'il fait et se taire, tu trouves pas ?
Bien écoute, je crois que depuis hier, il n'est plus ministre de la Communication, moins que depuis, ils l'ont remis. Dans le nouveau gouvernement, il n'en est pas moins vrai que Georges Filiou, qui était journaliste de deuxième zone à l'époque où il était à l'ORTF, avait quitté l'ORTF en disant « on tue la liberté, on tue le pluralisme ». Eh bien, Georges Filiou, il a tué la liberté et le pluralisme sur la bande FM, mais il est vrai que là, il obéissait à des ordres impérieux venus d'en haut, venus du château, comme on disait Jules Giscard. Ça vient toujours du château, le château n'a pas changé de place, c'est toujours l'Elysée. Et Georges Filiou, eh bien, n'est pas une couleuvre près, il accepte n'importe quoi, ce brave homme, c'est un brave type. Il est un peu dépassé, il a un peu les boyaux de la tête qui se sont mélangés, il n'y peut plus rien. C'est un type qui est fini politiquement. Dans sa ville, s'il se serait présenté comme maire, il aurait pris une veste. Il est surprenant néanmoins que ce soit son adjoint qui ait été élu à Romans. Eh bien, Georges Filiou est comme les autres hommes politiques. Ils promettent beaucoup. Ça me fait penser à Paul Quillet, ça me fait penser à Marcel Debarge, à Roger Rouquette, à Michel Charzat, à Jean-Paul Planchou, à Georges Sarr, à tous ces hommes politiques qu'un jour ou l'autre j'ai rendu beaucoup de services, dont certains me doivent pas mal d'argent et qui maintenant se rappellent plus que j'existe.
Est-ce que tu crois que ton départ va favoriser des gestes de la part d'hommes politiques pour Carbone 14 ?
Écoute, je ne sais pas si le fait que je quitte Carbone 14, et ce définitivement, va permettre à Carbone 14 de vivre. Je le souhaite ardemment. Je pense que la nouvelle équipe, qui sera composée que de gens du PS une nouvelle fois, eh bien oui, de militants du PS, je crois qu'il y aura dans la nouvelle équipe Aldo Bucci, Didier David, Michel Marquès, Marie-Thérèse Dutriez et d'autres gens, des animateurs. Enfin, je crois, puisque c'est ce que j'entends dire dans la nouvelle association, je crois que tous les animateurs de Carbone veulent en faire partie. Ce serait une association tout à fait ouverte, prête à une bataille pour essayer d'obtenir une dérogation. Je ne sais pas si ça marchera. Je le souhaite. Je souhaite simplement qu'à tous les gens qui m'ont écouté ce matin, tout ce que j'ai convaincu ou tout ce que j'ai maintenu dans leur cité de nous détruire, eh bien tout simplement qu'ils profitent peut-être de l'occasion de mon départ pour aider un groupe d'animateurs qui a beaucoup de talent, ce sont les animateurs de Carbone 14. Alors, la porte leur est ouverte, la balle est dans leur camp, qu'ils fassent quelque chose. Il y a 22 fréquences dérogées, il est très possible d'en faire 23, dans le comité Riposte, qui est le comité qui regroupe les radios non dérogées, il y a moyen de regrouper plusieurs radios qu'ils désirent, leur donner une 23e fréquence, l'ultime fréquence, je pourrais dire, pour l'ultime liberté.
Oui, et ce qu'on peut dire d'ailleurs, que ça soit cette aide, elle peut venir de la part des auditeurs tant que de gens qui ont des pouvoirs.
Je souhaite que Michel Cotta, qui je sais m'écoute aujourd'hui, car je le sais très bien, puisqu'elle a même fait venir hier des magnétophones spéciaux commandés à TDF, et oui, on n'est pas sans savoir ce qui se passe des fois au 100 avenue Raymond Poincaré. Donc elle écoute, elle enregistre, et bien je demande tout simplement à Michel Cotta, je ne suis plus à Carbone, mais peut-être Michel Cotta, moi je n'ai aucune admiration pour vous, je vous considère comme une personne veule. Mais peut-être ferez-vous quelque chose pour les autres animateurs de Carbone 14. Peut-être vous déciderez-vous à les aider. Faites ce que vous voulez. Moi, je suis Ponce Pilate. Je m'en lave les mains.
Oui, de toute façon, ça sera différent. Ça ne sera plus Carbone 14. Carbone 14, c'est la deuxième en ce moment. Nous sommes en train de vivre la deuxième histoire de Carbone, puisque la première, c'était Rue Paul Fort.
Voilà.
Et c'était déjà une grande partie. Et ici, à Bagneux, c'en est une autre.
C'en est une autre.
Bon, bah, la semaine prochaine, ça sera peut-être le même nom, ou Tracon 14, ou Carbone 13, ou Carbone 15. On va continuer la série voilà. Comme ça, la dynastie, pas, enfin, la dynastie de la radio libre infernale sur la bande FM, ça voilà. Ne crève jamais.
Je souhaiterais néanmoins que Carbone 14 garde son nom. Maintenant, elle ne pourra peut-être pas le regarder si elle venait à être regroupée avec d'autres radios, ce que je souhaite ardemment, des radios dans son style. Néanmoins, il pourra toujours rester pour les gens le goût d'une certaine liberté, le goût d'une certaine provocation, mais certainement un grand goût de renouveau, un grand goût de création. Ça a été sur Carbone 14, ça n'a pas été ailleurs. Je défie les gens de la bande FM qui nous écoutent, les bons penseurs du samedi soir, les porteurs de messages, les gens qui ont une éducation populaire à faire passer sur la bande FM, tous ces psychologues de la bidouille FM, tous ces gens qui croient qu'ils ont le message culturel à amener sur la bande FM, eh bien, vous vous êtes vraiment trompés. Carbone 14, pour moi, n'avait pas de message culturel à faire passer. La culture, ce n'est pas où vous la croyez, messieurs, ou mesdames les bons penseurs, les redresseurs de tort, ça n'est pas là. La culture, elle est en chacun de nous, elle est dans ce que chacun recherche. Et la culture, c'est une auberge espagnole, chacun y trouve ce qu'il y amène.
Tu crois que la prochaine version de Carbone sera un peu plus sage ? Ça sera différent ?
Bien écoute, je ne sais pas. L'enfance difficile
est terminée, alors il restera des séquelles quand même pour l'adulte ?
Oui, j'espère quand même qu'elle sera une radio libre surtout.
J'espère aussi.
Libre qu'elle pourra toujours exprimer, dépendre de personne, c'est ce que j'avais réussi à faire. Ce n'était pas une radio fric, ce n'était pas une radio godillot, ce n'était pas une radio lèche-cul, c'était une radio tout à fait libre. Alors, demain pour vivre, il va vous falloir beaucoup de courage. Je vous laisse du matériel, je vous laisse des locaux, je vous laisse un endroit relativement intéressant, je vous laisse une place sur la bande FM qui pour l'instant ne vous est pas prise. Puisque tout à l'heure, je crois que vous allez mettre un bip sonore sur 97.2, car je sais que les rapaces prêts à se délecter du cadavre de Carbone 14 étaient prêts à squatter la fréquence. Je rappelle tout simplement que nous, dans un but de liberté, lorsque nous sommes mis sur cette fréquence, nous n'avions pris la place à personne. Alors, c'est tout. Et oui, Carbone 14, toujours Carbone 14, encore Carbone 14, la rentrée de Super Nana dans le studio. Eh bien, Super Nana, je suis content, elle n'a pas entendu ce que j'ai dit d'elle tout à l'heure, et elle l'entendra sur l'enregistrement qu'elle pourra écouter plus tard, mais comme je ne serai pas là, ça ne me gêne pas. Non, pas du mal.
Non, c'est au contraire, c'est du bien. C'est très très gentil même. Gérard, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tenir jusqu'à midi tranquillement ou on va s'arrêter avant ?
Non, je pense que tu peux tenir jusqu'à midi. Je voudrais simplement rappeler à l'auditeur qui vient d'appeler et qui me dit « Je ne comprends pas après ce que certains hommes politiques du PS ont fait, pourquoi tu as toujours ta carte au PS ?» Eh bien, j'attends tout simplement qu'ils veuillent bien m'exclure s'ils le désirent. Mais en attendant, je ne voudrais pas que les gens confondent deux choses. Le Parti Socialiste, être socialiste, ce n'est pas un monopole de certains hommes politiques. Les hommes politiques peuvent varier, c'est le cas des hommes politiques dirigeants du PS. Le fait que moi je sois au Parti Socialiste n'a rien à voir avec ces hommes politiques. Pour pouvoir faire avancer le Parti Socialiste, il faut se battre et d'abord de l'intérieur, c'est pouvoir, lors des réunions de section, remettre en cause. Je sais bien que ce n'est pas ce qui les fait bouger vraiment, mais néanmoins, il convient de rester à l'intérieur pour se battre à l'intérieur de ce parti. C'est pourquoi je garde ma carte au Parti Socialiste jusqu'à ce qu'il décide de m'exclure. Mais pour l'instant, je tiens à y rester, car pour moi, c'est encore le meilleur parti politique qu'il y ait en France. Je veux dire par là, ses membres se battent pour une idée, pour une cause que je crois sincère. Je me verrais mal rejoindre le RPR ou l'UDF, où ce sont de petits establishments qui dirigent et où les gens exécutent, ça marche au pas de loi et ça vire au quart de tour. C'est un peu, comme dirait Super Nana, l'uniforme. Alors, Carbone 14, ce n'est pas ça, et moi, ce n'est pas ça non plus. Je reste au Parti Socialiste, même si je ne suis plus à Carbone 14.
Et ils vont peut-être te donner ta dérogation, parce que maintenant que tu seras plus occupé par ta radio, si tu commences à les emmerder, je crois qu'ils vont te filer rapidement une dérogation.
Une dérogation de quoi?
Pour ta radio, pour que tu reviennes t'occuper de ta radio, que tu leur foutes la paix au sein du PS.
Je sais pas, ça m'étonnerait parce que, bon, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, ça m'étonnerait. Néanmoins, je voudrais simplement demander, je vois qu'il y a Rico qui vient de rentrer, Rico, à qui je n'ai pas rendu hommage tout à l'heure, c'est l'une des dernières émissions de Carbone 14 qui est arrivée, c'est 50 millions de voleurs, pourtant c'est l'une des émissions qui m'a le plus fait rire.